Pour cette émission de La Voix du Colibri, le hasard du reportage m'a mené sur les traces d'un petit bonhomme qui n'a eu de petit que le surnom, tant ce dernier a œuvré, s'est démené pour les autres, jeune, moins jeune, oublié, invisible. Je vous propose donc de partir à la découverte d'un étonnant colibri, de certains de ceux qui l'ont accompagné et de ceux qui se démènent encore aujourd'hui pour suivre la voie du colibri. Par une jolie matinée ensoleillée, je prends la route direction Évron, en Mayenne. Le rendez-vous est fixé à 9h au grenier d'éthique, ressourcerie et chantier d'insertion. La Voix du Colibri pose donc ce jour-là ses micros route de Mésanger pour aller à la rencontre de celles et ceux qui s'activent et font vivre ce joyeux chantier et lieu de convivialité. Bonjour, dis donc, mais ça grouille de vie dans l'arrière-boutique. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Pouvez-vous vous présenter à nous et nous dire un petit peu ce que vous faites au sein de cette recyclerie ?
Bonjour, donc moi c'est Nathalie, je suis encadrante technique au grenier d'éthique avec un de mes collègues aussi sur le service déménagement et vie de maison.
Comment a germé, comment est née cette recyclerie ?
L'idée de la recyclerie, ça date de quelques années déjà, de la part de la direction de Éthique 53, surtout Corinne Bourdet. L'idée de trouver un support chantier d'insertion un petit peu plus destiné aux femmes et surtout aussi en lien avec l'écologie. Donc une recyclerie, c'était un petit peu dans l'air du temps et ça s'y prêtait. Et on est très heureux que cette idée ait germé.
Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ?
Une recyclerie, tout d'abord, c'est un dépôt de dons volontaires de particuliers, parfois de professionnels. Donc tout est basé sur le système de dons, nous rachetons absolument rien. Donc c'est vraiment un élan de solidarité. Ces dons sont traités en atelier, nous les revendons en petit prix. Ils sont revalorisés, c'est ce qu'on appelle nous de la revalorisation. Donc les salariés en insertion ici sont des agents valoristes. Donc les objets sont revalorisés et revendus à petit prix en boutique pour plus de solidarité. Donc en plus du service recyclerie, nous avons forcément un service vide maison, ce qui ramène beaucoup de nos meubles aussi en magasin. Vide maison et déménagement solidaire.
Alors j'ai bien compris la partie recyclerie et dons, mais j'aimerais bien savoir exactement comment fonctionne un chantier d'insertion.
Donc le chantier d'insertion, c'est des salariés en parcours professionnel qui sont positionnés sur la plateforme de l'inclusion par des prescripteurs Cap Emploi, Pôle Emploi, des travailleurs sociaux. Voilà, donc les gens qui rentrent ici ont un contrat de 4 mois minimum, 24 mois maximum. Voilà, on ne peut pas faire carrière à la recyclerie. Au bout de 24 mois, c'est terminé dans n'importe quel chantier d'insertion. C'est vraiment un tremplin entre, j'ai envie de dire, entre deux vies aussi. La vie qui s'est passée avant, les petits soucis qu'on a eus, les gros soucis qu'on a eus, et puis peut-être un petit peu de décrochage aussi au niveau du travail ou peut-être des problèmes un petit peu plus personnels. Nous, on est là pour redonner l'envie aussi, pour redonner des clés, lever des freins, c'est-à-dire refaire parfois peut-être passer le permis de conduire, imaginer des formations, trouver une nouvelle idée de projet professionnel qu'on n'avait peut-être pas imaginé. Il faut vraiment prendre le chantier d'insertion comme un tremplin. On est là pour aider et on essaye de faire au mieux pour ça. On prend aussi également pas mal de stagiaires parce qu'on aime vraiment beaucoup faire travailler les lycées professionnels, les lycées ou les collèges du coin. Et on arrive à faire des partenariats comme ça. On intervient régulièrement aussi pour expliquer comment travaille la recyclerie et ce qu'est l'économie sociale et solidaire dans les lycées du coin. Et ça nous tient à cœur aussi. Donc on essaye de créer vraiment un joli partenariat avec tous nos collaborateurs du coin.
Donc si j'ai bien compris, le grenier d'éthique fait partie des chantiers d'insertion de l'association Éthique 53 à Mayenne. Alors j'ai encore une question, pourquoi ce nom, le grenier d'éthique ?
Éthique 53, pourquoi éthique ? Donc c'est tout simple, un établissement de travail et d'insertion à Copainville. 53 puisque c'est en Mayenne, éthique ça a aussi une consonance forcément que tout le monde imagine. Donc voilà, c'est ce qui nous tient à cœur dans l'ESS. Le grenier d'éthique, eh bien, dans un grenier, on trouve toujours des choses un petit peu sympas. Tout le monde se rappelle du grenier de papy ou de mamie ou de tonton Georges. Et c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre au grenier d'éthique. C'est pour ça que le choix de ce mot-là a été important pour nous.
Merci Nathalie. Je vais aller derrière, dans les ateliers, à la rencontre de tous ceux qui s'activent.
Vous pouvez me dire quel est votre nom, comment vous vous appelez et ce que vous faites ?
Je m'appelle Vincent, je suis en recyclerie depuis un an, en déménageur. En déménageur, on est 4 et 5 avec le responsable.
Christopher, et je suis avec mes collègues côté déménagement.
Je m'appelle Laurent, je suis en réinsertion, je suis multitâche, je m'occupe un petit peu des ateliers, boutiques, caisses. En fin de compte, on est polyvalent, on essaye d'être polyvalent.
Bonjour, moi c'est Philippe Hideuf, je fais la vaisselle pour l'instant, mais normalement je fais les luminaires et n'importe quoi.
Alors moi c'est Alexia et je m'occupe essentiellement de la déco et puis j'approvisionne le magasin. Et je fais de la caisse aussi.
Moi je m'appelle Louane et je suis salariée à la recyclerie et auparavant j'étais bénévole. Je suis venue grâce à mon service civique pour une bourse au permis de conduire. Et on m'a proposé la recyclerie et je suis venue régulièrement faire des heures. Et ça me plaît énormément. Je fais énormément de caisses et mon projet professionnel plus tard, c'est d'être dans la vente.
On a une entente comme si on était une grande famille en fait. Ça, c'est ça qui est génial parce qu'on s'entend tous bien. Et si on a des choses à se dire, on se les dit. Avec le ton de la rigolade, mais on se les dit.
Merci. Merci beaucoup à tous pour votre accueil ce matin. Grâce à vous, je comprends beaucoup mieux ce que ESS veut dire et comment fonctionne l'économie sociale et solidaire. Je comprends beaucoup mieux aussi comment fonctionnent les chantiers d'insertion. Et j'ai peut-être encore une dernière question, Nathalie, pour vous. Quels sont les projets à venir du Grenier d'Éthique ?
Écoutez, régulièrement, on fait le marché de Noël à Évron. Donc là, vous pourrez nous y retrouver. En fait, on délocalise un petit peu la recyclerie, on sort de nos murs et on profite un petit peu des moments festifs aussi de la ville. Les actualités, j'ai envie de vous dire, il faut regarder le Facebook parce qu'on a plein d'idées et on va en faire plein. Passez nous voir au Grenier d'Éthique, route de Mésangers à Évron. On sera ravis évidemment de vous accueillir et surtout de ravi de prendre du temps avec vous pour en discuter parce qu'on est aussi et surtout un lieu d'échange.
Merci Nathalie. Bref, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à venir vous balader, déposer vos dons, chiner ou simplement à aller à la rencontre des agents valoristes du Grenier d'Éthique, route de Mésangers. Joindre l'utile à l'agréable, recycler, ressourcer, c'est peut-être dans l'air du temps, c'est vrai, mais cela fait surtout beaucoup, beaucoup de bien. Quant à moi, je vais poursuivre la route et pousser l'enquête un peu plus loin du côté de Mayenne. Je prends rendez-vous avec Corinne Bourdet, directrice d'Éthique 53. J'aimerais comprendre le lien entre Copainville et Éthique.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour Corinne. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux de Mayenne. Je reviens du Grenier d'Éthique et j'avais envie de venir vous poser quelques questions.
Je vous emmène pour une petite visite et puis vous présenter un petit peu l'ensemble de notre équipe.
Ah mais volontiers, c'est parti, alors allons-y. Vous êtes la directrice d'Éthique 53 et donc vous êtes en charge avec vos collaborateurs bien sûr de nombreux chantiers d'insertion, dont le Grenier d'Éthique Évron. J'ai cru comprendre qu'il y avait un lien historique très fort entre Éthique 53 et Copainville à Mayenne. Quel est-il ? Quel est ce lien ?
Alors, à l'origine, tout était sous la structure Copainville. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont ici depuis plus de 30 ans, qui étaient salariés Copainville. Moi-même, j'ai été salarié Copainville au démarrage. Et avec les différentes réformes, en fait, qu'il y a eu, notamment au niveau de l'insertion, les chantiers d'insertion chez nous existent depuis 2008, sous l'association Copainville. Et en parallèle, il y avait donc le centre de formation aussi. Il y a une grosse réforme en 2014 qui nous a obligés et contraints en fait à créer une structure en parallèle de Copainville. Et on l'a appelé dans un premier temps les chantiers d'insertion de Copainville. Donc ça a été créé en 2014 suite à la réforme en fait où ils ont créé ces fameux CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion. Et d'où le I d'insertion qui est important puisqu'il y a toute cette partie accompagnement pour travailler sur les freins. Avant, c'était des contrats aidés, mais c'était sous un autre nom, d'autres modalités. Enfin, voilà, il y avait plein de... Donc, on a été contraint de créer cette association en parallèle. Et puis, pour vraiment, au niveau du public extérieur, parce que Copainville, c'est très connu sur le bassin de Mayenne. Les chantiers d'insertion, les personnes ne voyaient pas forcément ce qu'on y faisait et comment ça fonctionnait. Donc, on a changé de nom en 2018 pour s'appeler Éthique 53, établissement de travail et d'insertion à Copainville. On ne va pas renier nos origines pour autant. Mais voilà, l'idée, c'est que ici à Éthique, c'est vraiment le champ professionnel. On accompagne nos publics sur l'axe professionnel, mobilité, dans le but de trouver un emploi derrière. Et Copainville s'est recentré, enfin, c'est ce qu'il a toujours fait depuis toujours, sur la partie hébergement. Alors, on travaille, c'est pour ça qu'on travaille toujours en lien, en fait, parce qu'ils ont énormément de logements. Il y a 90 logements, hein, sur Copainville. Ça va de l'habitat jeune, ce qu'on appelait les FJT dans le temps, les hébergements d'urgence, les accueils de victimes de violences. Enfin, voilà, il y a énormément de les CHRS. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, il y a un suivi éducatif pour un public jeune. Faite par des éducateurs et éducatrices à Copainville. Donc oui, nos publics en fait participent au nettoyage du linge, au nettoyage des logements, surtout sur l'hébergement d'urgence où sachant tout le temps, il faut toujours donner un petit coup. Donc on est deux associations, on travaille en lien serré, puis on a besoin l'un de l'autre, mais voilà, ce sont deux associations distinctes.
Le lien que vous expliquez entre ces deux associations me donne envie d'aller à la rencontre de ceux qui ont connu les prémices de Copainville. Je vous propose donc de faire un retour en arrière dans les années 60 et de revenir à ses origines.
Tout le monde bat des mains avec moi. Ensemble. Encore.
Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit.
L'histoire de Copainville, elle démarre en 61. Donc moi, je suis Jean-Pierre. Et l'histoire de Copainville débute en 61 à la suite d'un jeune homme qui n'avait pas où habiter. Ça a intrigué certaines personnes, et en particulier un prêtre, qui a dit « c'est pas possible, il faut qu'on trouve à l'héberger ». Et c'est comme ça que Copainville a démarré. Dans un ancien collège qui était propriété de l'évêché de Laval, si je ne m'abuse.
Et ce jeune qui a été, dont parlait Jean-Pierre, moi je m'appelle Noël, ce jeune a été découvert sous un pont, il dormait sous un pont, et le curé, l'abbé Jamon, je l'appelle le curé parce que je ne suis pas tellement de cette famille-là, mais c'était un très bon copain. Et il n'a pas voulu que ce jeune continue de dormir sous les ponts, et il a trouvé un endroit pour l'héberger.
Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson.
Et à la suite de ça, il s'est créé un foyer pour des jeunes travailleurs qui venaient des campagnes environnantes ou d'ailleurs, parce qu'ils trouvaient du travail sur Mayenne. Et à l'époque, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que moyen de locomotion, ceci, cela. C'est comme ça que Copainville est né.
C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, oh. Pour moi c'est le bonheur. C'est ça,
le bonheur. Ouais, alors moi je suis venu à Copainville, je suis venu, c'était les débuts. Disons que c'était à la fin de la première année de Copainville, à peine. Parce que moi je suis arrivé en août 62. Ça a été écrit en 61. Je suis arrivé en août 62 parce que je suis arrivé à Mayenne pour travailler. J'avais trouvé du travail à Mayenne. Et il fallait que je m'héberge. Je n'avais pas de famille. Il fallait que je m'héberge. Il fallait que je me nourrisse. Et donc, une assistante sociale qui m'avait trouvé cette adresse en me disant, va voir, il y a un foyer pour jeunes travailleurs. Va voir si ça t'intéresse. Je suis venu. Et puis j'ai vu le fameux petit bonhomme, qu'à l'époque on n'appelait pas encore le petit bonhomme, on était respectueux, on l'appelait l'abbé Jamon à cette époque-là, au tout début. Et qui m'a accueilli sur le perron, et quand j'ai vu une soutane, j'ai dit c'est pas possible, ça va recommencer. Dans ma vie j'avais quand même fait 12 ans de pension dans des établissements religieux. Voilà. Et en fin de compte, c'était pas ça du tout. je sais pas pourquoi il a fait prêtre ouvrier, mais je sais qu'il l'a fait. Il travaillait sur Paris à une époque. Il est chauffeur-livreur, et dans mon souvenir, c'est ça, parce que c'est quand même un peu loin, mais c'est la définition du prêtre-ouvrier, c'est ça. Il continue son ministère tout en travaillant. Oui, parce qu'il faut savoir que Copainville, c'est le foyer des jeunes travailleurs, que ça s'appelait à l'époque. C'était aussi un lieu d'accueil pour des jeunes de la ville qui venaient jouer au baby-foot, qui venaient jouer au billard, qui venaient jouer à différentes choses, qui participaient à des activités, des voyages. C'était ouvert. Il y avait atelier photo, il y avait montage de... Plein de choses comme ça qui étaient ouvertes aussi aux gens qui n'étaient pas résidents de Copainville. Ce qui permettait un brassage de populations de jeunes qui était incroyable.
Ben, moi, pour ma part, je suis rentré pas à Copainville directement, comme Jean-Pierre. On a commencé à ce fameux foyer de jeunes travailleurs qui était dans le centre-ville de Mayenne. Et moi, j'avais commencé à travailler, puis j'avais des potes qui étaient hébergés dans cet endroit. Et comme j'avais une famille qui était relativement non aisée, J'étais mieux avec les copains que chez moi. Donc j'ai connu ce fameux curé et qui m'a dit, écoute, tu viens quand tu veux, ici tu es chez toi avec tes copains. On demandera peut-être de donner des coups de main, faire ceci ou cela, et puis et ça a démarré comme ça. Il l'a jamais abandonné parce que dans le cadre des vacances des jeunes, il a organisé des voyages à l'étranger. Et il y a des anecdotes qu'on se rappelle. Il arrête le dimanche matin, il a arrêté le bus sur le bord de la route, à l'abri d'un pommier, il mettait une table dehors et il faisait sa messe. Et il y a des gens qui arrêtaient pour savoir ce qui se passait. Et les jeunes autour, des gens qui étaient croyants, plus que moi, bien sûr. Et moi, ça fait rien, je pensais à faire la quête. Et ça nous permettait de boire l'apéro. C'est une anecdote vraie. Hein.
Vous l'appelez petit bonhomme, l'abbé Jamon. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Ben, c'était dû à sa taille, déjà. Et en plus, il était très sympa, il était, comme on dit, très, très bonhomme. Et comme il n'était pas grand, on l'avait appelé le petit bonhomme.
Il s'est resté toute sa vie. Et sa signature,
c'est un petit bonhomme.
C'est le Y, la lettre Y, avec un point dans le V du Y, ce qui représente un petit bonhomme.
Et le Y, c'est son prénom, Yves.
Alors, il y a une question qui m'intéresse particulièrement. Vous avez beaucoup parlé de travailleurs, mais y avait-il aussi des travailleuses à Copainville ?
Non, alors, dans les années 60, il y avait une séparation entre les garçons et les filles. Mais il est bien évident que les filles avaient été aussi des jeunes travailleuses, hein, et qu'il fallait aussi les loger. Donc, petit bonhomme avait trouvé un local vacant à la Providence, la maison de retraite actuelle, et il a fondé le foyer pour les filles en 1963. Voilà. Et les filles, elles venaient aussi manger, là. Hein. Et alors, plus tard, lorsque Copainville s'est installé ici, ah ben après, ils ont été intégrés à Copainville, hein, complètement.
Et tout ça, ça nous amène, après, à mai 68. Mai 68, pas pour tout ce que l'on sait de mai 68, mais les jeunes ont traversé la ville de Mayenne avec pelle-pioche sur le dos. Oui, c'était un défilé en chantant. Hein. Franchement, c'était sympa, quoi. Les garçons et les filles, voilà, c'était vraiment du compagnonnage, quoi. Ils sont allés sur un terrain qui était route de Fauconnier, qui avait été une partie donnée, une partie achetée. Et c'est ici qu'a été créé Copainville. On a construit, les jeunes travailleurs, hein, on a construit en 3 mois ce village.
Avant, ça s'appelait la Cité des Jeunes. Et c'était bien nommé parce que c'était vraiment une cité, comme on l'a dit, avec un conseil municipal, pratiquement. C'est devenu Copainville par imitation d'un autre Copainville qui était à Troyes. C'est lorsque le petit bonhomme a acheté le terrain ici que les jeunes ont auto-construit, hein, fait leur logement. Il nous en reste un exemplaire de ce logement-là. Ces chalets-là, ils avaient une résistance un peu réduite par rapport au temps et aux intempéries aussi. Donc, il a fallu, à un moment donné, les changer. Et c'est alors que le petit bonhomme a trouvé un architecte qui était très novateur. Et il a remplacé tous les chalets par des bulles en polyester, de toutes les couleurs. Il y avait beaucoup de promiscuité à l'intérieur. Et c'était pas très grand. Et pour que les gens se rassemblent, il y avait une plus grosse bulle qui avait été faite, comme un forum, en fait. Et ce forum-là existe toujours. Si vous allez à Copainville, vous le verrez. C'est un grand truc blanc. Il est toujours là et il est toujours très, très utilisé parce qu'on y a mis l'informatique. Je crois que les bulles, elles ont au moins duré plus de 10 ans. Ils n'ont été remplacés qu'en 80, dans les années 90, par les petits immeubles qui existent actuellement, qui sont en dur.
Lorsque j'entends vos témoignages, je découvre qui était le petit bonhomme, mais je ressens aussi cette force qui a été insufflée à Copainville, aux jeunes, et aussi encore aujourd'hui, au chantier d'insertion, Éthique 53.
Tout à fait, ouais. Il avait un état d'esprit. Mais en plus, il avait une autorité naturelle.
Ah oui, oui.
Pour lui, il n'y avait pas d'échec, quoi. Quand il y avait échec, il savait le dire, mais pour lui, il n'y avait pas d'échec. Il y avait toujours une solution. Quand il ne pouvait pas rentrer par la porte, il passait par la fenêtre.
Il avait comment, une formule qui était...
Bien faire et laisser braire. Et il avait un âne sur son bureau. Cet âne représentait ça, bien faire et laisser braire.
C'était sa devise. En fait, on fait d'abord et après on demande. C'était son symbole, un âne. Et il y a une stèle, d'ailleurs, à Copainville, et sur la stèle, on a reproduit la queue de l'âne.
Parce que chaque battement d'aile compte, voilà comment un petit bonhomme et de très nombreux colibris sont parvenus à transformer leur rêve en réalité. Nous revoilà Chemin du halage avec vous, Corinne. Je comprends mieux le lien historique qui relie Copainville à Éthique 53. Je vous suis. Vous me montrez comment fonctionnent vos chantiers d'insertion.
Au niveau des supports, ben chez nous, on est un chantier qui offre quand même pas mal de possibilités puisque nous avons un support donc garage avec l'entretien mécanique et carrosserie de notre parc de voitures pour la location. On a un atelier menuiserie, on a un atelier espace vert où on fait de l'entretien classique des espaces verts, taille de haies, tonte des pelouses, débroussaillage. On a deux équipes aussi en éco-pâturage où on a une ferme avec presque 400 têtes des animaux qu'on met à disposition des collectivités pour entretenir en fait les parcelles. Nous, on a des animaux qu'on peut leur mettre à disposition via des prestations. Et puis, ben, c'est un super support pour nos salariés en insertion qui s'adresse autant à des femmes qu'à des hommes, ce qui n'est pas forcément toujours évident de trouver des supports où les femmes peuvent se projeter. Et ils font tout le soin à nos animaux, les transferts, enfin tout ce qu'on peut être amené à faire en fait sur une exploitation. Nous avons également un support collectivité, donc entretien des locaux, entretien du linge. Et nous avons une antenne depuis 2021 sur Évron avec le grenier d'éthique, la recyclerie et l'activité vie de maison déménagement solidaire. Voilà pour nos différents supports sur les chantiers d'insertion. Et le service de mise à disposition de véhicules donc, que nous avons en lien avec la plateforme mobilité du département. Donc nous avons une antenne à Laval, rue Crossardière, avec les collègues de la plateforme mobilité, notamment le centre de ressources en mobilité et la dépanneuse qui va chercher les véhicules quand malheureusement il y a des accidents ou des soucis mécaniques.
Est-ce que la dame peut t'interroger sur ce que tu fais sur le garage?
Alors moi je suis Monsieur Ruot Régis, je suis formateur en carrosserie peinture à la base. C'est greffé le service mobilité, donc on a 50 voitures dans le département qu'on met à disposition des jeunes. On dit des jeunes, mais ça peut être des jeunes et des moins jeunes. C'est pour aller dans l'emploi, pour la location, pour aller au travail, en formation ou des rendez-vous médicaux, pour louer la voiture. Ils peuvent l'avoir 6 mois s'il y a du travail.
Alors vous, ça fait combien d'années que vous êtes ici ?
Moi, ça va faire 31 ans. Il y a des jours, ben, on est content quand on voit des jeunes qui réussissent, qu'on apporte un soutien aussi à d'autres. Ben, ce que ça m'apporte, moi, c'est que tout le monde a une vie différente. Le stagiaire, il peut avoir un passé difficile, responsable ou pas responsable. Pour un jeune qui commence un travail, on peut les lancer à avoir plusieurs payes, mettre un petit peu de sous de côté, et ça, c'est positif. Et souvent, on est remercié de l'allocation, ça leur a permis de prendre un souffle pour se relancer, quoi. Et après, avec les collègues CIP, il arrive à trouver du travail, ben après c'est le principal qui est fait, quoi.
Donc ils ont un rendez-vous avec une CIP, une conseillère en insertion professionnelle, au minimum une fois tous les 15 jours.
Bonjour, je m'appelle Aurélie Plessis, je suis CIP à l'association depuis un peu plus d'un an. Donc on accompagne des salariés, des bénéficiaires dans leur démarche d'insertion. Donc on voit les salariés lors d'un entretien qui est individuel. Pendant cet entretien-là, en fait, on fait le point sur la situation, sur leurs besoins, leurs problématiques. On leur donne des objectifs. Ça peut être de contacter une entreprise, retravailler le CV. C'est vraiment en fonction, en fait, du salarié. En plus de ça, on fait des visites d'entreprises. Là, bientôt, on va aller visiter Rapido pour pouvoir leur montrer justement les entreprises du territoire, mais aussi les métiers. Ça leur permet aussi de s'entraîner à se présenter auprès d'entreprises pour les entretiens de recrutement. On travaille évidemment avec France Travail, la mission locale, Cap Emploi, le département.
Et ce statut de chantier d'insertion nous permet de fait d'être connu d'intérêt général et d'avoir ce statut, ce conventionnement ESUS, donc être connu entreprise solidaire d'utilité sociale. qui nous permet, quand les personnes souhaitent, nous faire un don. Et nous accueillons volontiers les dons, notamment de véhicules, ce qui nous permet d'augmenter notre parc et de renouveler notre parc, de délivrer un CERFA qui permet après au public de déduire la somme estimée de la valeur du véhicule, 60% au niveau des impôts, ce qui n'est quand même pas négligeable et qui est un grand coup de pouce pour notre association parce que les véhicules, on a un conventionnement avec l'État. Donc oui, je fais un appel aux dons. Alors ça peut être sur tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que les voitures, quand on ne sait pas quoi faire de sa vieille voiture, elle est peut-être trop vieille pour nous, mais elle peut encore dépanner d'autres personnes derrière. Nous, on a notre garagiste, donc Régis, il peut peut-être lui refaire une deuxième vie à cette voiture et puis qu'elle reparte pour permettre à des personnes d'aller à un emploi derrière. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening.
Un toit qui abrite, un feu qui réchauffe, pas de porte qui enferme, ni de mur qui divise. Toutes idées, toutes couleurs, sans qu'aucune ne domine, sans qu'aucune ne s'écrase. Arc-en-ciel pour plus de lumière, rose de tous les vents, sans crainte des courants d'air. On y vient de tout et partout. Et ragaillardi, on reprend le cap. Et on repart vers d'autres découvertes dans la vie. Ce texte, écrit par le petit bonhomme, nous montre de quelle façon une utopie peut devenir réalité. Un don, un geste, une action, un collectif. L'économie sociale et solidaire. Parce que changer le monde, cela commence peut-être tout petit, comme un battement d'ailes de colibri. Pour suivre la voix du colibri, la voix VOIE, c'est en podcast sur l'autre radio, bien sûr, mais aussi sur Facebook, Spotify et Instagram. À bientôt!